Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Voilà, nous lisons deux textes dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. D'abord, les versets 24 à 34. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ?» ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 10, maintenant, aussi dès le verset 24 et jusqu'au verset 33. Matthieu 10, 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
Il est impossible de lire l'Ancien Testament paisiblement, lisant les jugements de Dieu dans la Bible, sans l'action du Saint-Esprit qui illumine nos cœurs, nous permet de connaître Dieu, d'entendre son appel, de saisir sa richesse, de sa grâce. Ce que nous avons vu jeudi à l'étude biblique, et nous comptons sur le Saint-Esprit encore aujourd'hui. Il est dit dans Ecclésiaste 7, 14, « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. » Le coronavirus qui a bouleversé tant de choses et qui a fait des victimes directes ou indirectes ne peut pas vraiment être vu comme une marque du jour du bonheur. mais plutôt une marque d'un jour du malheur. Alors, nous avons décidé de réfléchir au jour du malheur, réfléchi. Et donc, Roland a dit que j'avais à cœur de parler de ça. Évidemment, nous avons décidé au collège d'anciens, il est d'accord. On parle aussi de ça, évidemment. Voilà, donc en dehors des derniers dimanches du mois, où nous continuons la série sur Marc, eh bien, nous allons avoir une petite série intitulée « Réflexion en ce temps de coronavirus ». Alors, nous n'allons pas faire une recherche médicale, ni un bilan économique, ou encore un discours politique. Non, nous allons réfléchir à ce qui touche notre cœur, notre vie spirituelle, qui influence nos actions. Et nous chercherons à être guidés par la parole de Dieu pour ses principes de base. Et voici actuellement les quelques questions qui vont être traitées. La première question, que devons-nous craindre? À qui devons-nous obéir? Quelles sont nos priorités? Que penser de la souffrance? Pourquoi rester unis? Et qu'est-ce que la Bible dit sur tous ces sujets? Eh bien, c'est le but de cette petite série de nous donner quelques pistes pour chacun et continuer. Je vous encourage ensuite à continuer à creuser. Je suis conscient qu'on ne pourra pas tout voir, même ce matin, par rapport à la question « Que devons-nous craindre ?» Nous ne verrons que certains éléments de base et que j'espère des fondements pour nous aider. Et quelqu'un disait en réfléchissant à cette situation sanitaire, je vous le cite, « S'il y a une chose que je souhaite que mes enfants voient chez nous, c'est le calme et l'attente que nous avons en Dieu. » Il est bien plus précieux pour mon enfant qu'elle sache pourquoi nous pouvons avoir confiance dans le Seigneur que le nombre de malades dans chaque région. Je peux lui dire que cette situation me dépasse et qu'à part suivre les recommandations et veiller sur les plus faibles, je ne peux rien faire et que malgré cela, je n'ai pas peur. Alors nous commençons aujourd'hui ce premier sujet. Que devons-nous craindre? Depuis une année maintenant, des craintes ont été vécues par chacun. Des peurs de toutes sortes, des peurs personnelles ou généralisées, des peurs suscitées ou spontanées, des peurs pour sa propre personne ou même pour le monde entier. Alors quel est le premier réflexe de tout chrétien? Quel est notre premier réflexe lorsque nous avons peur? Eh bien c'est de trouver refuge en Dieu. Et nous le faisons par la prière, par la lecture de sa parole qui nous révèle sa volonté et qui nous indique ses promesses et qui nous guide. Que devons-nous craindre? Nous allons réfléchir à ce sujet en trois temps. Premièrement, une seule crainte légitime. Deuxièmement, nous verrons des sources de la crainte. Et troisièmement, des promesses anti-craintes. Donc commençons par une seule crainte légitime. Alors là, c'est bien si vous avez votre Bible ouverte dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10, des versets 24 à 33, nous avons lu trois fois qu'il ne faut pas craindre. Ne crains pas. Ne crains pas, ne soyez pas dans la crainte. Et une fois, il est écrit qu'il faut craindre. Regardez avec moi le verset 28 de Matthieu 10. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. J'aimerais simplement souligner que le coronavirus peut tuer le corps, mais pas l'âme. Et même pour certains, comme certains le prétendent, le vaccin contre le coronavirus pourrait tuer le corps. Bon, mais pas l'âme. Le texte nous dit ici, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Nous n'avons donc pas à craindre du côté de notre corps. Nous allons agir selon les éclairages que nous avons, avec sagesse et respect, sans diaboliser ni diviniser les actions médicales qui sont entreprises. C'est vraiment ce que nous allons vivre. Nous allons donc pas avoir peur du côté de notre corps, nous allons agir selon des éclairages que nous avons avec sagesse et respect, sans diaboliser ni diviniser les actions médicales qui sont entreprises. Et il est possible d'avoir des avis différents et pourtant chacun honorer Dieu en ne craignant pas ce qui tue le corps. Par exemple, je pourrais être atteint par le coronavirus sans l'avoir cherché. Et même avec complications, je peux mourir. Oui. Mais ce virus ne peut pas tuer mon âme. Il ne peut tuer que mon corps. Ou j'ai une complication suite au vaccin et même une hémorragie et meurs. Cette complication peut tuer mon corps, mais pas mon âme. Je ne suis pas éternel sur cette terre. Et je n'ai pas à chercher cette éternité-là. Certains ont vécu longtemps, d'autres peu de temps. Et ils ont tous la même valeur. Et ils ont tous accompli ce que Dieu leur avait assignés. Jésus a dit clairement qu'ils n'ont pas à craindre la mort physique. Et le texte biblique continue en disant « Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Qui est celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne? Eh bien, celui qui peut faire périr dans le corps et l'âme de la géhenne n'est certainement pas Satan, parce qu'il sera lui-même jeté dans la géhenne. Celui qui peut faire périr l'âme, c'est Dieu. Et tous dans notre péché, nous avons intérêt à comprendre que c'est lui que nous devons craindre. En fait, tout l'Ancien Testament nous donne des exemples tellement forts. Nous avons des peurs très fortes dans l'Ancien Testament. La peur de la fureur de Dieu, la peur de son abandon, la peur de son jugement. Le déluge, les malheurs des 10 plaies d'Égypte, les Cananéens exterminés, le peuple d'Israël exilé sont des éléments qui devraient nous faire comprendre que on a intérêt à craindre Dieu. On ne rigole pas avec Dieu. Et le Nouveau Testament n'a pas changé, comme certains le prétendent. Non, un texte dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, il dit ceci, Hébreux 10, verset 28. « Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il l'est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Certains disent, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. On continue au verset 29. « Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Encore le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. » Vous savez, la colère de Dieu est une mort bien plus longue que celle du coronavirus. La colère de Dieu est une mort bien plus longue, parce que c'est une mort éternelle, que celle du coronavirus. Le péché, qui est une révolte contre Dieu, est plus mortel que le coronavirus. Il est 100% mortel. Le manque de foi est plus paralysant que le coronavirus. Le manque de foi est plus paralysant que le coronavirus. Le manque d'amour est plus destructeur que le coronavirus. Le manque d'amour est plus destructeur que le coronavirus. Le manque de consécration est plus néfaste que le coronavirus. Le manque de consécration est plus néfaste que le coronavirus. Le manque d'espérance éternelle est plus déprimant que le coronavirus. Le manque d'espérance éternelle est plus déprimant. Et la seule crainte légitime, c'est la crainte de Dieu qui amène à confesser Jésus-Christ et vivre la foi, l'amour, la consécration, l'espérance. Car nous voyons dans le texte de Matthieu 10, si on continue, si on lit tout ce texte, je ne peux pas tout prendre ce qu'il y a dans ce texte, même en lien avec ce que l'on vit actuellement, c'est très très riche. Mais un élément que je souligne ici, c'est au verset 32, il est parlé de celui qui craint Dieu. C'est pourquoi quiconque confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà quelqu'un qui craint Dieu. Et le verset suivant, Matthieu 10, 33, il est parlé de celui qui craint ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Verset suivant, il est dit, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Celui qui confesse Christ va donc manifester la vie de Christ en lui. Ce qu'il manifestera par la foi au Dieu souverain, par l'amour à son prochain, la consécration dans le corps de Christ et l'espérance qu'il chérit et dont il se nourrit. Celui qui craint Dieu n'est pas dans une situation où il a une crainte peureuse. Parce qu'il est de son côté. Celui qui est du côté de Dieu n'a pas besoin d'avoir une crainte, d'avoir peur. J'ai peur de Dieu. Non. Nous sommes de son côté purifiés par son sang. Nous n'avons pas besoin d'avoir de la terreur. Par contre, nous allons garder la crainte respectueuse. Il est le Dieu tout-puissant et il le reste, et heureusement. Imaginez que vous êtes un employé d'un très puissant patron et vous lui avez volé une très grande somme d'argent. Et ce vol est connu. Et vous avez peur qu'il vous trouve parce que vous serez ruiné. Mais voilà, que son fils rembourse toute votre dette. Et le patron vous convoque. Alors je pense quand même que vous continuerez à le craindre. Car il reste aussi puissant qu'avant. Et vous le respecterez par contre, peut-être même encore plus, en apprenant qu'il a organisé ce remboursement avec son fils. Mais il n'y a plus besoin d'avoir peur. C'est exactement ce qui se passe par rapport à Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Christ a payé pour nous libérer. Pourtant, il reste la même puissance. Et c'est celui qui nous garde. Alors qu'est-ce qui nous guide? Qu'est-ce qui guide nos réactions face au coronavirus et ses conséquences? La crainte de la maladie? La crainte du gouvernement? La crainte des pharmas? La crainte du regard des autres? La crainte de contaminer les autres? Aussi peureuse et respectueuse soit-elle, il n'y a qu'une crainte légitime. Et c'est celle qui doit nous guider dans nos choix. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. J'ai dit que je pourrais pas aller très loin. Il faudrait vraiment développer encore tout ça. Hein, par rapport à, mais alors est-ce qu'on peut avoir des fois des peurs, etc. Oui, bien sûr qu'on peut avoir des peurs. Mais ces peurs doivent nous pousser à Dieu. Si les peurs nous éloignent de Dieu, on doit vraiment commencer à se poser des questions. Et si Christ nous a payés, nous n'avons pas de crainte peureuse à avoir envers Dieu, mais plutôt une crainte respectueuse décuplée. Et voici une affirmation inspirée d'un auteur qui dit ceci. « Puisse-t-il ne jamais être dit que le peuple de Dieu est gouverné davantage par la crainte des circonstances que par la foi en Dieu ?» Eh bien, que la crainte des circonstances ne soit pas ce qui dirige nos réactions ou nos décisions, mais que ce soit notre foi en Dieu. Dès que la peur, autre que celle de décevoir Dieu, nous gouverne, nous ne pouvons faire que fausse route. C'est donc une leçon importante pour ce qui concerne les décisions en lien avec le coronavirus. Il n'y a qu'une crainte légitime qui peut les inspirer, la crainte de Dieu. Et bien sûr, la recherche du bien des autres, puisque ça découle de la crainte de Dieu. Alors pour mieux enlever les mauvaises herbes des craintes illégitimes, il est utile d'enlever les racines de ces craintes. C'est notre deuxième point, les sources des craintes illégitimes. Et puis ce sont principalement les idoles de nos cœurs qui sont les sources de nos craintes illégitimes. C'est principalement les idoles de nos cœurs qui sont les sources de nos craintes illégitimes. Et Jésus l'a bien dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Je vais vous en donner quelques exemples. L'idole du confort est bien haute dans le classement. Elle nous pousse à avoir peur, par exemple, que le coronavirus nous mette en quarantaine et qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut. C'est l'idole du confort. Cette idole du confort nous indique qu'il faut à tout prix éviter les souffrances. À tout prix éviter les souffrances, on va être confortable. Que ce soit causé par le coronavirus ou par les masques, les tests, les vaccins, tout ce que vous voudrez, on pourrait causer de toutes ces choses-là. Mais on a peur de souffrir, peur de la souffrance. Et c'est l'idole du confort qui nous pousse à avoir peur de cela. L'idole de la longévité. Nous avons peur que le coronavirus ou tout ce qui est autour pourrait diminuer notre longévité. Et là, je trouve que c'est extraordinaire comme cette idole a été brisée par le nombre de chrétiens qui s'occupent et qui se sont occupés de personnes infectées, même au détriment de leur vie, dans de nombreuses épidémies dans toute l'histoire de l'humanité. L'idole de notre indépendance encore veut nous pousser à nous révolter face aux décisions des autorités qui nous dérangent et nous demande de nous conformer à des gestes, des recommandations communes. Nous avons peur d'être tyrannisés. Alors oui, nous pouvons indiquer avec respect des remarques au gouvernement et rempli de respect et d'amour pour eux, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas de peur à avoir. Dieu est au contrôle. God is in control. En français, Dieu est au contrôle. Il y a l'idole de notre santé qui amène des peurs de toutes sortes. Que ce soit d'être infecté, de manquer d'oxygène, ou bien d'autres choses qui touchent à notre corps et qui nous poussent à nous isoler, à éviter tout contact. Alors oui, notre corps est le temple du Saint-Esprit, et il faut en prendre soin, c'est vrai. Mais pour glorifier Dieu, et pour être à son service, et vivre l'amour les uns envers les autres. Et nous pourrions continuer encore avec bien des idoles qui toutes prennent leurs racines dans l'incrédulité, l'orgueil et l'égoïsme. Voilà le terreau dans lequel ces idoles prennent leurs ressources. Et toutes ces idoles tuent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, vous l'aurez reconnu, qui est le fruit de l'esprit que vous trouvez dans Galates 5, 22. Toutes ces idoles tuent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, qui est le fruit de l'esprit que vous trouvez en Galates 5, 22. Alors si vous voyez dans votre vie, ou que quelqu'un vous le dit, que votre amour, votre joie, votre paix, votre patience, votre bonté, votre bienveillance, votre fidélité, votre douceur, ou votre maîtrise de soi diminue ou ne progresse pas en lien avec vos réactions face au coronavirus, une alarme devrait s'allumer et se dire, mais quelle est la crainte qui me pousse à réagir d'une manière différente que si je craignais Dieu? Quelle crainte illégitime devrais-je éliminer? On pourrait dire que ces sept éléments que l'on trouve dans le fruit de l'esprit sont comme sept bougies dans une lanterne allumée. Gardons-les allumées. Et si elles diminuent ou qu'on a l'impression qu'elles sont plus présentes, ben, réagissons. Revenons à Dieu qui est celui qui nous donne sa lumière pour la refléter autour de nous. Et au lieu de se demander comment rester en bonne santé, tout en faisant attention évidemment, plutôt se demander comment aider, comment soutenir, comment stimuler la maturité, comment manifester le fruit de l'esprit, comment manifester l'évangile de Jésus-Christ par nos vies, par nos réactions, par nos paroles. Or la prudence fait partie du courage, comprenez-moi bien. La prudence fait partie du courage, mais pas au détriment de l'obéissance à Dieu. Pas au détriment de l'obéissance à Dieu. Se laver les mains, porter un masque tout en aimant son prochain, en le saluant, en cherchant à savoir comment il va, se mettant au service de l'Église pour enseigner, annoncer l'Évangile, aider les plus faibles. Dieu, dans sa grâce, connaît notre situation de pécheur et sait que nous avons besoin d'encouragement. Voilà pourquoi notre troisième point, nous allons parler des promesses anti-craintes. Les promesses anti-craintes. Juste pour commencer, j'aimerais vous partager une parole de Corrie Ten Boom qui vivait dans un temps de peur. Il y avait vraiment de la peur, où toute personne qui était en lien avec des Juifs à cette époque-là était en danger. Donc la peur, elle connaissait. Et voici ce qu'elle dit, et j'aime bien ça. L'inquiétude ne vide pas demain de ses peines. L'inquiétude ne vide pas demain de ses peines. Elle vide aujourd'hui de sa force. L'inquiétude ne vide pas demain de sa peine. Elle vide aujourd'hui de sa force. Voilà pourquoi il faut se débarrasser de ce péché qu'est l'inquiétude avec le bon médicament que vous connaissez, Philippiens 4, 6 et 7. Philippiens 4, 6 et 7, vous le connaissez? Quelqu'un peut le dire comme ça? Ne vous inquiétez donc de rien. Comme ça que ça commence. Et ensuite, mais en toute chose, faites connaître par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui est vrai, que nous expérimentons, que j'expérimente. Marlise me disait encore hier, on parlait un peu de cette prédication, puis elle me disait, mais t'imagines pas le nombre de craintes que j'ai eues, et le nombre de craintes que Dieu m'a enlevées. C'est au-delà de toute intelligence. C'est vrai. Et Dieu le fait encore aujourd'hui et aussi dans la situation sanitaire dans laquelle nous sommes. La prière est efficace. Exerçons-nous à toujours plus entrer dans une vie de prière spontanée. Vous savez, depuis quelques mois, lorsque nous parlons d'une situation difficile, Marlise me dit, c'est un réflexe, elle commence à voir, arrêtons-nous et prions. Ah, mais est-ce que ça fait du bien? C'est tellement important. Est-ce que ça nous aide aussi à nous centrer sur Dieu? Parce que nous savons que Dieu agit. Dieu agit. Quelqu'un a dit, je vous donne aussi cet élément, j'ai eu 2-3 perles comme ça, je vous les donne. Rappelez-vous continuellement, cela prend la même quantité d'énergie de s'inquiéter que de prier. Ça prend la même quantité d'énergie de s'inquiéter que de prier. Mais une de ces attitudes conduit à la paix et l'autre à la panique. Choisissez donc sagement. Que se passera-t-il demain avec le coronavirus? Que se passera-t-il demain? Eh bien, voici ce que Matthieu 6 nous dit. On a déjà lu le contexte aussi. Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? On pourrait ajouter, comment le coronavirus sera-t-il éradiqué? Quand le gouvernement arrêtera-t-il ses restrictions? Enfin, etc. Je continue en Matthieu 6, 32. Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est ce que l'on appelle la foi. Placer sa confiance en celui que l'on craint respectueusement, sachant qu'il a un plan, qu'il est souverain, et que même si je ne comprends pas tout, je sais une chose, il est bon et il est assez puissant pour accomplir son dessein, qui contient toute l'histoire du monde, dans laquelle je ne suis en fait qu'une herbe passagère, pendant le temps duquel je cherche à chercher premièrement son royaume et sa justice. J'aimerais encore vous donner quelques promesses anti-crainte, que vous puissiez les prendre avec vous. Je vous en donne quelques-unes que j'apprécie particulièrement, qui m'encouragent aussi beaucoup. La première dans Isaïe 41:10, « Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Jeudi soir, on a parlé à l'étude biblique dans Éphésiens de connaître Dieu, c'est-à-dire qu'il soit aussi avec nous, présent à côté de nous. C'est, si on commence à saisir ce que ça veut dire que Dieu est là, avec nous, c'est juste phénoménal. Donc quand il dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » N'hésitez pas à reprendre ce texte. Ou encore, un autre que vous connaissez aussi, ces textes que vous connaissez, je nous les rappelle, c'est important de nous le rappeler. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » « Car il prend soin de vous », 1 Pierre 5, 7. Ou encore dans le psaume 37, 5, c'est un des éléments qui a marqué Marlise ces dernières semaines, qui dit « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. » On a le psaume 27, verset 1, qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» On pourrait dire « De quoi aurais-je crainte dans la situation actuelle ?» L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Le psaume 23, vous le connaissez bien. Il a cette partie au verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Jésus savait qu'on avait besoin d'être rassuré. Et il dira en Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Bientôt, on pourra peut-être déconfiner. Moi, je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Dieu donne une paix au cœur. Quand le cœur est en paix, il peut traverser des tempêtes. C'est juste phénoménal. On a des témoignages extraordinaires. De personnes qui ont traversé des tempêtes, on se dit, mais c'est pas possible. Leur cœur était en paix. C'est la paix que Jésus donne, que personne ne peut donner. Or, quelle est la différence entre une personne qui met des heures à trouver des informations sur le coronavirus et une personne qui met des heures à étudier la parole de Dieu, la méditer et prier pour les autres? Quelle est la différence? Généralement, l'un sera envahi de peur, de colère, d'inquiétude, et l'autre sera plus confiant, conscient de son salut en Jésus-Christ, et poussé à agir selon ses moyens pour les personnes pour qui il prie. C'est dangereux de prier pour les gens, je vous le dis tout de suite. Parce que si vous priez sincèrement pour les personnes, vous ne pourrez pas ne rien faire si vous avez des capacités de faire quelque chose pour ces personnes. Parce que Dieu agit dans votre cœur, vous faites partie de ces prières, vous faites partie des réponses aux prières que nous adressons à Dieu. Alors comme je le dis souvent, vous connaissez la phrase qui va venir maintenant. Nous débordons de ce que nous nous remplissons. Donc, n'hésitons pas à prier et nous remplir des promesses de Dieu. Celui qui prie, qui se remplit de prières et de promesses de Dieu, de quoi va-t-il déborder? Et pourquoi pas, pour s'exercer un peu, après le culte, tout de suite, vous pouvez aller vers quelqu'un et lui partager une promesse qui vous aide dans votre vie, qui vous encourage. Et ainsi continuer à vous remplir et même remplir les autres de ces promesses de la parole de Dieu. Nous arrivons à la fin de cette première prédication qui nous encourage à réfléchir. Alors réfléchissons en ce temps de coronavirus, ne nous laissons pas submerger par d'autres choses qui nous éloignent de Dieu. Rappelons-nous de ce que Dieu est celui qu'il faut craindre et qu'étant de son côté, nous n'avons pas de crainte à avoir. Et si nous avons parfois des appréhensions qui sont normales face à des situations difficiles, face à des nouvelles difficiles, face à peut-être un contexte difficile au niveau de cette situation sanitaire, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. Rappelons-nous le verset de Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et la question est donc de savoir si Dieu est pour nous, ou si nous ne savons pas s'il est pour nous. Si quelqu'un ici ne sait pas s'il est pour lui, bien, repentons-nous de nos péchés, croyons en Christ, saisissons sa grâce et vivons selon la grâce que Dieu nous fait, c'est-à-dire dans une confiance paisible. Alors j'espère nous avoir fait un petit peu progresser sur le chemin du rejet de la crainte des circonstances pour ne chercher qu'une chose de tout notre cœur, dans toutes nos actions, craindre Dieu et le glorifier en toutes circonstances. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans une très grande reconnaissance de pouvoir ouvrir ta parole et de voir à tant de reprises cette expression « ne crains pas, ne craignez pas, ne vous inquiétez pas ». Si tu nous le dis, Seigneur, c'est que tu as des raisons de nous le dire. C'est que tu prends réellement soin de nous. C'est qu'en fait, aucune de nos vies ne va s'arrêter avant que toi tu ne le veuilles. Nous n'avons donc pas à craindre pour notre corps. Nous n'avons pas à craindre que nous allons, que quelqu'un va nous prendre la vie sans que tu y prennes garde, ou qu'un virus va prendre notre vie sans que tu y prennes garde, ou toute autre chose. Seigneur, aide-nous à ne pas nous concentrer là-dessus, mais à nous concentrer sur toi. Donne-nous cette grâce, Seigneur, de vivre cette crainte de ton nom dans ce désir de t'honorer, de t'adorer, de te louer, et de le faire ensemble, de penser aux autres qui sont autour de nous, comme Christ l'a fait. Il n'a fait que ça. Il n'a pensé qu'aux autres. Non pas qu'il a rejeté son corps, il l'a nourri, il a dormi, mais il a pensé aux autres. C'était sa mission. Et c'est celle dans laquelle tu nous fais entrer, en étant en Christ. Et nous voulons, Seigneur, te remercier et te louer pour cela. Merci pour les exemples aussi dans le passé, dans l'histoire de personnes qui n'ont pas eu peur, qui ont été utiles dans ta main. Plusieurs sont morts, mais beaucoup ont été un témoignage tellement puissant que ceux qui ne te connaissaient pas sont venus à toi. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous désirons des fruits éternels. Nous ne désirons pas simplement avoir une gloire sur cette terre ou une longévité. Nous désirons, Seigneur, des fruits éternels. Nous te prions d'agir dans ta grande puissance et de nous donner ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence dans ces contextes qui sont difficiles, dans ces contextes qui sont aussi parfois entourés de personnes actuellement qui commencent même à se révolter. Donne-nous, Seigneur, de vivre la paix que toi tu donnes. Notre beau nom Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.